les Amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Sabrina Robert-Quende, professeure de droit public à l'Université du Mans, nous propose une lecture des enjeux de la lutte contre les changements climatiques au regard du droit international. Troisième épisode, lutte contre les changements climatiques et développement durable.
Bonjour aux auditrices et auditeurs d'Amicus Radio. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la lutte contre les changements climatiques et du développement durable. Alors pour commencer, je vais rappeler ce qu'est le développement durable. Il s'agit, selon le rapport Brundtland de 1987, qui utilise pour la première fois cette expression, d'un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins. Le développement durable comporte trois volets. Un volet économique, un volet environnemental et un volet social. Et il implique un processus de développement qui permette une conciliation de ces trois volets. Alors, lorsqu'on se réfère à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et à l'accord de Paris, on constate que le développement durable est conçu comme un levier essentiel de la transition climatique. Pour les pays développés, il s'agit de transformer les modèles économiques classiques de sorte de s'adapter aux enjeux environnementaux et humains des changements climatiques. Et pour les pays en développement, il s'agit de leur permettre de bénéficier des modèles de production, des technologies et des savoir-faire les plus en pointe du point de vue de la protection du climat, sans toutefois compromettre leur droit au développement économique. Ceci étant dit, cet objectif de développement durable, il ne peut se réaliser qu'à la condition que des outils juridiques soient élaborés qui permettent cette conciliation. Pour ce qui nous intéresse, entre développement économique et lutte contre les changements climatiques. Or, si l'on se tourne vers les instruments internationaux du développement économique, et je m'intéresserai ici aux accords commerciaux, en particulier les accords de l'Organisation mondiale du commerce, et les accords commerciaux régionaux, comme l'accord de libre-échange nord-américain, le Mercosur ou l'ASEAN, on se rend compte que ces accords sont très mal adaptés à l'impératif de transition climatique. Dans ces instruments, on ne trouve aucune disposition qui soit directement en lien avec la protection du climat. Et pour comprendre comment, dans le cadre de ces instruments, les politiques publiques climatiques des États peuvent se concilier avec les principes fondamentaux du développement économique, il faut se référer plus généralement aux mécanismes qui permettent de protéger l'environnement ou les droits humains. Or, ces instruments, les accords économiques, se placent dans une posture défensive par rapport aux mesures de protection de l'environnement qui peuvent avoir un effet restrictif du commerce. Le droit des États de réglementer dans un but de protection de l'environnement n'y est pas remis en cause en tant que tel. Mais ce droit, il est encadré dans des conditions de légalité très strictes pour éviter que les États, sous couvert de protection de l'environnement, ne réintroduisent des mesures de protectionnisme déguisées. Cela ressort par exemple clairement de l'article 20 de l'accord général sur le commerce des marchandises de l'OMC. Cet article, c'est le mécanisme principal de prise en compte des mesures environnementales dans le cadre de l'OMC. Et il a été copié dans la quasi-totalité des accords commerciaux préférentiels. Et à sa lecture, on voit bien que les mesures environnementales restrictives du commerce sont simplement tolérées, à condition qu'elles ne heurtent pas de plein fouet la philosophie libérale de l'OMC. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les traités économiques, tels que les accords de l'OMC, reposent sur une rationalité purement économique. Ce qui importe dans ces traités, c'est que les mesures de protection de l'environnement n'introduisent pas d'obstacles au libre jeu du marché. Ces mesures doivent donc être non discriminatoires, elles doivent être les moins restrictives possibles du commerce, elles doivent être rigoureusement proportionnées et prévisibles pour les opérateurs économiques. Du point de vue des mesures que les États peuvent prendre au titre de leurs engagements climatiques, par exemple au titre de l'accord de Paris, cette rationalité économique fait que leur marge de manœuvre est assez limitée. Alors par exemple, l'introduction d'une réglementation dissuasive sur les produits technologiques à obsolescence programmée, une taxe sur les smartphones par exemple, pourrait être bloqué sur le fondement du principe de non-discrimination de l'OMC si cette taxe biaise le rapport de compétitivité de ces produits sur le marché des smartphones. Autrement dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que les accords de libre-échange n'offrent pas aux États la flexibilité nécessaire pour adapter leurs engagements économiques aux impératifs climatiques. Alors pour l'illustrer, il suffit de mentionner le contentieux des énergies renouvelables qui s'est développé depuis quelques années devant les organes de jugement de l'Organisation mondiale du commerce. Le Canada et l'Inde ont été condamnés respectivement en 2012 et 2016 pour leur programme d'encouragement du développement des énergies renouvelables. Alors dans les deux cas, ce qui a posé problème, c'est que les dispositifs incitatifs qui ont été mis en place par les autorités conditionnaient l'aide financière de l'État à l'obligation pour les producteurs d'énergie d'acheter leur équipement, alors les panneaux photovoltaïques par exemple, ou les pales des éoliennes, auprès des producteurs locaux. Alors il est vrai qu'un tel dispositif, qui est très répandu, privilégie les filières industrielles locales. C'est donc discriminatoire. Et c'est ce qu'ont relevé les organes de jugement de l'OMC. Mais on pourrait admettre qu'il est légitime pour un État qui engage d'importantes ressources financières dans le développement des énergies renouvelables qu'il puisse, au moins temporairement, permettre d'en faire aussi bénéficier son économie nationale. Mais le droit de l'OMC ne permet pas une telle entorse à la loi du marché. Voilà pour l'approche traditionnelle, telle qu'elle est adoptée dans les accords commerciaux de la génération OMC. Maintenant, on parle aujourd'hui d'une nouvelle génération d'accords de libre-échange qui, entre autres évolutions, permettrait de mieux prendre en compte la nécessité de concilier les objectifs économiques des États et les impératifs écologiques. L'archétype de ce type d'accord, c'est le CETA, qui a été signé en 2016 entre l'Union européenne, ses États membres et le Canada. Alors la question qui se pose, c'est celle de savoir si ce type d'accord fait une plus large place à la problématique climatique.
Enfin, le climat. Le climat est le grand absent de l'accord. Ça se justifie probablement par le timing de la négociation. Donc l'accord a été négocié au moment où le gouvernement canadien, c'était le gouvernement Harper, qui était un gouvernement qui se disait lui-même libertarien. Toute réglementation ou tout climat, toute politique climatique, il n'en voulait pas. Donc on ne parle pas du climat dans l'accord. L'accord a aussi été finalisé avant la COP21, avant l'accord de Paris. Donc on ne parle pas de climat dans l'accord. Pour un accord qui se veut global, c'est dommage. Et on pense que là, il y a un manque patent. Un manque dans trois dimensions. La dimension commerciale. Si l'accord augmente le commerce, l'accord va augmenter les émissions de gaz à effet de serre dues au transport maritime et aérien, transport international. Rien n'est prévu pour compenser la hausse de ces émissions. Donc ça, c'est l'aspect purement mécanique, hein, l'aspect commerce. Rien n'est prévu pour inciter à mettre au point des... Donc la dimension investissement, disons, rien n'est prévu pour inciter à mettre au point des technologies propres, plus respectueuses de l'environnement, des technologies en énergie nouvelle, des choses comme ça. Et enfin, l'aspect politique économique, rien n'est prévu pour une coordination, disons, des politiques économiques environnementales avec le Canada. On aurait pu penser à quelque chose du genre lier les marchés de permis d'émission. Enfin, bon, il n'y a rien.
L'extrait que l'on vient d'entendre, c'est un extrait de l'audition à l'Assemblée nationale, en octobre 2017, de Kathleen Schubert, qui a présidé la commission d'évaluation des impacts du CETA sur l'environnement, la santé et le climat. Et le constat qu'elle fait est particulièrement décevant. Il n'y a rien dans le CETA sur le climat. Et on peut encore noircir un peu plus le trait. Il n'y a quasiment rien non plus dans les autres accords commerciaux de nouvelle génération, comme par exemple l'accord entre l'Union européenne et le Vietnam, l'accord entre l'Union européenne et Singapour, l'accord entre l'Union européenne et le Japon, ou encore l'accord de partenariat transpacifique, qui ont tous été négociés récemment. En réalité, il faut relativiser quelque peu ce propos. Dans ces accords, on trouve désormais un chapitre entier dédié à la protection de l'environnement. Dans certains accords, notamment dans l'accord entre l'Union européenne et le Vietnam, on trouve même un article qui est spécialement dédié à la question du changement climatique. Mais en pratique, ces dispositions des traités de libre-échange n'imposent pas de nouvelles obligations aux États. Ils ne donnent pas priorité à leurs obligations climatiques. Ils ne font que renvoyer à ce qui existe déjà. Autrement dit, les accords de libre-échange de nouvelle génération perfectionnent, approfondissent la rationalité économique qui a été mise en place à l'OMC, mais ils ne rompent pas avec elle. Alors pour faire en sorte que les accords de libre-échange deviennent un levier de la lutte contre les changements climatiques, dans la logique du développement durable, il faudrait aller beaucoup plus loin. On peut d'abord envisager que des mécanismes dissuasifs soient intégrés dans les accords commerciaux pour privilégier les activités économiques durables. Alors, il y a actuellement à l'OMC une négociation extrêmement intéressante pour transformer le dispositif de lutte contre les subventions de sorte que celui-ci puisse être utilisé contre les subventions qui encouragent la surpêche. On pourrait parfaitement envisager, du point de vue juridique, de faire la même chose pour les subventions aux énergies fossiles, dont l'exploitation est particulièrement nocive pour le climat. On peut ensuite envisager des mécanismes incitatifs pour encourager l'adoption de politiques climatiques pérennes. Alors certains spécialistes proposent par exemple de créer des zones de libre-échange climatique, des sortes de clubs climatiques. L'objectif de ces zones serait de permettre un accès privilégié à certains marchés uniquement pour des pays vertueux du point de vue climatique. Ce ne sont là que quelques exemples qui montrent que, du point de vue juridique, une multitude d'outils est disponible pour mettre le développement économique au service de la lutte contre les changements climatiques. N'a été abordé ici que le volet commercial du développement économique. Mais on peut avoir un raisonnement comparable s'agissant du volet investissement international, qui est aussi extrêmement important en droit international économique. La commission chargée de l'impact du CETA sur l'environnement, la santé et le climat, dans ce rapport qui a été rendu en septembre 2017, a proposé que l'on introduise, par exemple, dans le chapitre investissement du CETA, un veto climatique qui permettrait de bloquer les procédures juridictionnelles qu'un investisseur étranger voudrait engager contre une mesure adoptée par l'État sur le territoire duquel il opère, afin de se conformer à ses engagements au titre de l'accord de Paris. Là encore, c'est un exemple parmi de nombreuses possibilités de faire évoluer les traités d'investissement dans un sens qui soit plus compatible avec les objectifs qui ont été posés dans la Convention cadre et dans l'accord de Paris. Ceci dit, ces transformations juridiques majeures ne peuvent être amorcées que s'il existe une véritable volonté politique d'aller en ce sens. Je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour parler des changements climatiques et de la sécurité humaine.
Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.